1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Comment vas-tu?
Mais je vais bien. T'as vu ma voix, elle est normale.
Ouais, elle est normale ta voix.
Eh ouais.
Oh, tu as muté.
Ouais.
Donc, tout va bien. Tout va mieux.
Tout va mieux, à peu près.
Enfin, ceci dit, tu avais une très belle voix sur les deux
précédentes
émissions.
Ouais, je sais, arrête de remuer le couteau dans la plaie.
Alors, troisième émission de novembre, on a traité de la propagande sur les deux premières émissions.
Ouais. Et là, on va parler de quoi ?
Alors, ben, une suite logique, malheureusement. Et puis, ça va être l'occasion de faire une émission post-Trump 2.0, ah. Malheureusement. On s'y attendait un peu, hein, ça nous pendait au nez. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on prenne un petit peu de hauteur, avec notamment dans un premier son que je vais te proposer, de Clément Viktorovitch, on l'a déjà écouté ici. Alors, il vient de sortir un bouquin qui s'appelle L'art de ne pas dire. Il tourne un spectacle aussi autour de toutes ces expériences autour des mutations, du langage. Et là, c'est un extrait d'une interview qu'il a donnée à une librairie bordelaise, la librairie Mola, autour de la sortie de son livre. Et en fait, il évoque l'ère de post-vérité dans laquelle nous sommes rentrés depuis quelques années.
Waouh ! Post-vérité ?
Ouais.
Ok.
C'est pas lui qui a créé cette locution, mais enfin, il en parle vraiment très bien. Je te propose qu'on l'écoute. Ça dure une huitaine de minutes.
Hein. Ouais, donc on prend les chips et on se cale sur le canapé.
Par exemple.
Ok.
Les discours politiques sont... Ils ne sont pas seulement vides, ou ils le sont, mais ça, ils l'ont souvent été, en tout cas une partie d'entre eux, encore une fois, pas tous. Hein. Le problème, c'est véritablement les discours qui sont mensongers, qui mobilisent des anticatastases, c'est-à-dire qui contredisent le réel de manière ouverte, qui ne se soucient même plus du vrai. Voilà. Le problème, c'est l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire le moment où les responsables politiques cessent de se soucier du vrai et ne disent plus ce qui est, mais disent ce qui plaît. Ne disent même plus ce en quoi ils croient, mais disent ce qu'ils croient qui sera apte à convaincre leurs auditrices et leurs auditeurs. Ça, pour le coup, c'est dommageable. Et là, c'est quelque chose de nouveau. Et vous avez raison. C'est à mettre en lien avec l'époque. Je l'ai bauché un peu tout à l'heure. Je pense qu'il y a... Il y a plusieurs raisons qui expliquent que nous ayons basculé dans ce monde de la post-vérité. Déjà, un effet de mimétisme. Tout ça part quand même beaucoup de Donald Trump aux États-Unis. Je rappelle quand même que Donald Trump, le jour de son investiture, donc premier jour de sa présidence, hein, le jour de son investiture, la foule rassemblée pour venir l'acclamer est moins importante que pour Barack Obama. Bien moins importante que pour Barack Obama. Tout le monde le voit. Il y a des photos satellites du moment. C'est-à-dire, tout le monde le voit. La réalité est sous nos yeux. Et Donald Trump dira pourtant, il n'y a jamais eu une foule aussi grande le jour de l'investiture d'un président. Mensonge absolu. Mensonge les yeux dans les yeux. Et quand sa porte-parole a été questionnée sur cette question, elle a répondu la chose suivante. Écoutez, nous sommes libres de proposer des faits alternatifs. Fin de citation. Donc là, vous voyez bien que on est rentré ce jour-là dans une autre ère. Quelque part, Le changement de monde était explicite chez Donald Trump. On est rentré dans un monde où on a le droit de mentir, de contredire la réalité, de proposer des faits alternatifs, les yeux dans les yeux, en disant « nous n'en paierons pas le prix, nous ne cesserons pas, nous continuerons et vous allez voir que ça ne nous sera même pas dommageable ». Et effectivement, c'est à peu près ce qui s'est produit. Donc, il y a peut-être bien eu un effet de mimétisme chez Boris Johnson, par exemple, qui, regardant ce que faisait Donald Trump, s'est dit au moment de la campagne pour le Brexit « bon, après tout, pourquoi pas nous ?» Et donc, la campagne pour le Brexit a été totalement mensongère, avec des chiffres donnés qui avaient été débunkés, critiqués mille fois. Tout le monde savait que c'était faux, et Boris Johnson continuait de les rabâcher matin, midi et soir, sans avoir, là encore, à en payer le prix. Il a même gagné la campagne. Et donc, il n'est pas exclu qu'en France, le pouvoir macroniste, constatant cela, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, se disent « bon, après tout, pourquoi pas nous ?» Donc, un, il y a un effet de mimétisme qui peut-être remonte jusqu'à la figure tout à fait particulière tout de même, de Donald Trump. Deux, je pense évidemment que cette explication ne suffit pas, il y a un rôle, je crois, majeur des réseaux sociaux. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, en effet, du fait des réseaux sociaux, du nouvel espace informationnel dans lequel nous vivons, il est possible de contredire la réalité les yeux dans les yeux sans avoir à en payer le prix. Pour deux raisons. La première, c'est la saturation informationnelle. Je ne suis pas le premier à le dire. Aujourd'hui, nous sommes saturés d'informations comme nous l'avons jamais été. Il suffit d'ouvrir son téléphone portable, d'ouvrir Twitter pour être immédiatement saturé de nouvelles, saturé d'informations non hiérarchisées, à l'importance tout à fait démesurée. Certaines, c'est les affaires privées, les petits conflits entre personnalités de la télé-réalité. D'autres, c'est des drames absolument insoutenables qui se déroulent à des milliers de kilomètres de chez nous, au milieu de ça la politique. Et nous sommes saturés de tout cela, sans tri et sans discontinuité. Et je crois que dans ce monde de saturation informationnelle, les choses passent. Quand les citoyennes et les citoyens voient un responsable politique attrapé en flagrant délit de mensonge, ils disent « ah bon, oui », et puis deux jours après, on est passé à autre chose. Et quand je dis deux jours, je suis généreux, c'est bien souvent deux heures après, on est passé à autre chose. Donc d'une part, il y a une forme de fatigue informationnelle, de saturation informationnelle qui s'est installée, qui fait que, bah oui, on peut se permettre de dire n'importe quoi, ça nous vaudra des critiques pendant un temps, et un temps très limité. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est ce que j'ébauchais tout à l'heure et qui est absolument capital, c'est le fonctionnement des réseaux sociaux en bulle de filtre et en bulle algorithmique qui nous enferme dans des opinions qui sont conformes à celles, enfin, qui nous enferment dans des informations qui sont conformes à nos opinions, à nos préconceptions, à nos préjugés. À la fois parce qu'on suit des comptes que l'on a plaisir à suivre et qui généralement relayent des informations avec lesquelles on est d'accord, des jugements, des opinions avec lesquelles on est d'accord, et aussi par le biais des algorithmes qui nous présentent, tentent à nous présenter des informations qui nous font plaisir puisque ça nous maintient sur la plateforme. Le fonctionnement de X, de Twitter est un peu différent, mais je rentre pas dans les détails, revient à peu près au même. En fait, Twitter tente à nous confronter à des informations avec lesquelles on est très, très en désaccord, ce qui provoque notre indignation, donc notre réaction, donc nous fait rester sur la plateforme. Mais en définitive, une information avec laquelle on est très, très en désaccord, elle ne va pas nous convaincre non plus. Elle va au contraire nous renforcer dans notre préconception. Donc, ce monde des réseaux sociaux est devenu paradoxal. Il est à la fois plus contradictoire qu'aucun espace informationnel ne l'a jamais été. Aucun espace public même ne l'a jamais été. Aujourd'hui, on ne peut rien dire sans être immédiatement contredit. Vous pouvez faire le test, il suffit de dire « bonjour » sur Twitter pour que immédiatement quelqu'un réponde « bonjour, vraiment, avec tous les malheurs qui se passent dans le monde, les personnes qui souffrent, la misère, vraiment, bonjour. » Bon, donc on ne peut plus rien dire sans être immédiatement contredit, à tort ou à raison. Donc, le monde n'a jamais été aussi contradictoire. Et quand une bêtise est dite, elle est immédiatement débusquée, immédiatement, par de très nombreuses voix. Et en même temps, ce monde est paradoxal puisque les auditrices et les auditeurs sont chacune et chacun enfermés dans des bulles d'une opinion conforme à la leur. Si bien que quand moi je dis quelque chose, certes, je vais être contredit, mais les personnes auxquelles je m'adresse tendront à être exposées seulement à mon information et pas aux objections. Et donc l'espace public n'a jamais été aussi contradictoire et en même temps, aussi peu contradictoire. Et c'est ce qui permet à des responsables politiques comme Donald Trump, comme Boris Johnson, comme les membres du macronisme, du gouvernement et de la présidence macroniste en France depuis 7 ans, c'est ce qui permet au gouvernement aujourd'hui de dire parfois n'importe quoi, d'être débusqué, sans avoir pourtant à en payer le prix. Et ça, je le déplore parce que, et c'est ce qu'il faut dire, c'est pas seulement que on a de nouvelles techniques de communication qui changent et que voilà, c'est qu'au fond, business as usual, c'est comme hier, ça a toujours existé. Non, je pense que là, nous avons basculé dans cette ère de la post-vérité qui menace directement notre idéal démocratique. Parce qu'à partir du moment où on peut dire tout et n'importe quoi, à partir du moment où tout se vaut, à partir du moment où le réel n'a plus d'importance, comment pouvons-nous encore faire, nous autres, citoyennes et citoyens, pour nous forger un jugement sur les affaires publiques? Comment peut-on encore faire pour se retrouver dans le débat public quand tout le monde dit tout et n'importe quoi? Qu'est-ce qui a encore de la valeur dans les discussions, dans les argumentations, quand tout peut être dit sans être réellement contredit? Au fond, ce que nous voyons, c'est que nous avons basculé dans un monde où les responsables politiques n'ont plus à assumer la responsabilité de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait. Nous avons basculé dans un art de ne pas dire, ou du moins un art de ne jamais avoir à accepter la responsabilité de ce que nous avons dit ou de ce que nous avons fait. Et ça, le moment où les hommes et les femmes politiques n'ont plus à accepter la responsabilité de ce qu'ils disent et de ce qu'ils font, c'est le moment où l'idéal démocratique vacille. Parce que le minimum de l'idéal démocratique, c'est le monde où les responsables politiques sont jugés et éventuellement renvoyés sur le fondement de ce qu'ils ont dit et de ce qu'ils ont fait. C'est cet idéal-là qui, je crois, est menacé par cette nouvelle communication. L'ère de la post-vérité, si nous n'y prenons pas garde, pourrait bien basculer, si ce n'est d'ailleurs pas déjà fait, dans une ère de la post-démocratie.
Ben, on n'avait pas dit une émission gay et légère.
Non, on avait dit la semaine prochaine une émission gay et légère.
D'accord, ok. Je me disais, tiens, j'ai dû me tromper alors. C'est effrayant ce truc, c'est
tout
effrayant.
Tout n'avait pas été dit. C'est effrayant, bah oui, mais c'est notre réalité. Non ?
Bah oui, oui, bien sûr, c'est notre réalité, mais elle est complètement effrayante, elle est complètement flippante et voilà quoi.
Ouais.
Ouais.
C'est le sentiment que tu as ?
Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est comment on lutte contre ça?
Bah, c'est la question qu'il pose, effectivement.
C'est-à-dire, comment on fait? Tu vois, comment on fait? Si en fait, tu montres avec les images satellites que non, il y avait trois personnes à son inauguration et que l'autre dit non, on propose une version alternative où il y a plein de gens et c'est nous qui
alors,
sommes.
Alors, comment
dans
on fait?
Vrai.
Je ne sais pas, effectivement. C'est la question qui nous est posée là aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, on est véritablement dans une guerre culturelle et que là, on a pris un petit peu de retard parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu venir et qui est mené par des forces réactionnaires, des forces d'extrême droite déjà depuis quelques années. À ce propos, je signale un documentaire que j'ai vu hier qui est assez passionnant de Off Investigation. Qui est en ligne, ça se trouve facilement, ça dure un peu plus d'une heure, ça s'appelle « Les médias de la haine » et ça décrypte véritablement la guerre culturelle qui est menée depuis quelques années en France par Bolloré, CNews et un certain nombre d'autres médias, avec toutes les dérives que ça peut comporter et l'impact que ces médias-là peuvent avoir sur nous tous, malheureusement. Et c'est passionnant. Donc déjà, il faut, avant de pouvoir agir, il faut prendre conscience de ça, décrypter ce qui se passe et peut-être, du coup, trouver les moyens de mener une contre-guerre culturelle en réaction à ce qui se passe. Voilà.
Super.
Une pause musicale et...
Ouais. Un truc gay, sympa et sautillant.
Ouais.
Pas une musique de Philippe.
Church of Love de Gavin Friday.
Ok.
C'est bondissant et sautillant. ça y est, tu es requinqué.
Ça y est, je suis requinqué. Okay. C'est cool. Bon, tu nous rappelles qui c'était ?
Alors, Gavin Friday, c'est l'ancien chanteur d'un groupe des années 80 qui s'appelait les Virgin Prunes. Et le titre, bah, c'est The Church of Love.
The Church of Love. Ok.
Très teasant.
Donc, bah, c'est SLP, les gars, les filles, et tous ceux au milieu. Et on parle de choses très joyeuses. On a parlé de post-vérité, puisqu'on est à moi sur la propagande. Et là, Philippe, tu nous proposes quoi comme autre joyeuseté ?
J'ai essayé tu me demandais tout à l'heure comment on faisait pour s'en sortir. Et du coup, j'ai écouté Cyril Dion, qui est un mec que je suis. Et en fait, il fait des éditos régulièrement dans une émission sur France Inter qui s'appelle La Terre au Carré. Et là, il est bah, forcément, comme beaucoup d'entre nous, il a pris un coup de massue avec la réélection de Trump. Alors, il s'est posé la même question que toi.
Ah, qu'est-ce qu'on
comment
fait ?
Comment on fait pour s'en sortir ? Donc, avant de l'écouter, je veux juste aussi signaler les analyses d'une historienne française qui enseigne en France et aux États-Unis, qui s'appelle Sylvie Laurent, qu'on a vu un peu, qu'on voit un peu en ce moment sur les plateaux de télévision. C'est une des rares personnes que je trouve hyper pertinente sur justement les explications de ce qui se passe en ce moment, l'arrivée au pouvoir de Trump et d'autres autocrates comme ça dans différents pays. Je trouve que ces analyses sont extrêmement puissantes et pertinentes. Donc, si vous avez l'occasion, elle s'appelle Sylvie Laurent, elle est historienne et ben on peut la suivre et l'écouter et chacun se fera son avis. Moi, je trouve que c'est super intéressant ce qu'elle propose comme explication.
Eh bien, écoute, ça nous suffit pour nous donner envie. Moi, je voudrais juste préciser un autre truc, c'est que Cyril Dion n'a rien à voir avec Céline Dion.
A priori, non. Mais c'est voilà, la queen de la chanson et le king des sauveurs, peut-être. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est quelqu'un qui essaye de continuer à nous faire espérer. Et du coup, il a un message post-Trump 2.0 que je te propose d'écouter.
France Inter, La Terre au Carré.
Cyril Dion, comme tous les mercredis, c'est l'heure de votre lutte enchantée en ce jour très particulier.
Très particulier, oui. À toutes celles et ceux qui désespèrent aujourd'hui en voyant la réélection de Donald Trump, je voudrais adresser un message de combat. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Plus que jamais, nous ne pouvons laisser le monde aux mains d'autocrates, manipulateurs et climato-sceptiques. Il faut nous dresser et nous battre. Mais pas n'importe comment. Nous ne pouvons pas nous contenter d'indignation de canapé sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de nous organiser méthodiquement. Et pour cela, il faut d'abord comprendre ce qui se passe, pour comprendre quoi faire. Comment cet homme, qui a encouragé une tentative de coup d'État en 2021, qui est accusé d'agression sexuelle par 26 femmes, qui a été reconnu coupable par un jury populaire de 34 chefs d'accusation pour des paiements dissimulés à une star du porno, qui est visé par 3 autres procédures pénales, un homme qui a déclaré que le réchauffement climatique est un canular et que la planète est en train de se refroidir, qui a promis qu'il allait forer du gaz et du pétrole, qui est considéré comme un fasciste par son propre ancien chef de cabinet, le général John Kelly, ou par l'historien spécialiste de l'extrême droite Robert Paxton, a pu être à nouveau élu président des États-Unis. Pourquoi tant de leaders d'extrême droite émergent partout, se font élire souvent, et menacent de plonger l'humanité dans un chaos écologique, antidémocratique et masculiniste ?
Est-ce que vous avez des pistes, Cyril Dion, pour répondre à cette question ?
Malheureusement, oui. Pour moi, 3 éléments méritent de retenir notre attention. D'abord, la faillite démocratique, ou l'envie de tout faire péter. Ça a été déjà maintes fois évoqué. Aux États-Unis comme ailleurs, un nombre grandissant de personnes n'en peuvent plus. Ont le sentiment qu'elles n'ont pas voix au chapitre, que leur vie est de plus en plus difficile, tandis que les prix montent, que les guerres reprennent, que les catastrophes climatiques se multiplient. Ont le sentiment que leurs élus leur mentent depuis des décennies, ou ne tiennent pas leurs promesses, qui n'est pas toujours une impression. Ils ressentent un sentiment mêlé d'envie de renverser la table, et de besoin de protection, qui partout favorisent des figures autoritaires, populistes, qui se disent capables de résoudre tous leurs problèmes. Alors peut-être me direz-vous, mais c'est faux, ils ne pourront pas résoudre tous leurs problèmes. Oui, sauf que nous ne vivons plus dans un monde de faits. C'est le deuxième élément. Trump a ouvert la voie à ce qu'il appelle les faits alternatifs. Il a appliqué à la lettre le conseil de son mentor, Roy Cohn. Vous pouvez aller voir ça dans le très bon film The Apprentice. La vérité n'existe pas. La vérité, c'est ce que tu dis. Cette dimension performative du langage, je l'ai dit, donc c'est vrai, est en train d'inonder un monde qui n'a pourtant jamais eu autant de possibilités de sourcer les informations. Des mensonges éhontés sont propagés, amplifiés par les bulles de filtre des réseaux sociaux, par des vidéos ou des photos créées grâce à l'intelligence artificielle pour manipuler les votes. Des leaders politiques n'ont plus aucune honte à transformer la réalité à leur guise dans les médias. La séquence entre Éric Ciotti et Patrick Cohen sur C'est à vous récemment en était un exemple ahurissant. Dans ce contexte, peut-on encore parler de démocratie ? Car tout ceci, malheureusement, n'est pas un hasard, et c'est le troisième élément. C'est la conséquence d'une stratégie qui remonte à loin. Depuis le début des années 80, une bataille culturelle fait rage. Des sommes astronomiques ont été investies par des milliardaires libertariens pour former des nouveaux leaders dans tous les domaines, bâtir des empires médiatiques, inonder par tous les canaux possibles l'espace politique, les médias, de leurs messages conservateurs, climato-sceptiques, sexistes, racistes et surtout simplistes. Et le résultat est là. Dans un nombre grandissant de pays, on assiste à l'avènement de ce que l'historien Jean-Baptiste Fressoz appelle le carbo-fascisme, l'alliance entre les intérêts de l'extrême droite et des industriels des énergies fossiles. Donc face à un constat pareil, qui est quand même vraiment très réjouissant, si nous voulons avoir une chance de préserver les droits des femmes, des personnes LGBTQIA+, des étrangers, nos conquis sociaux, nos libertés fondamentales, et faire que cette planète reste habitable, il va falloir, comme je l'ai plusieurs fois évoqué ici, construire des stratégies et aussi être efficace. Il ne va pas suffire de croire que nous avons raison et que ceux qui nous écoutent vont se rendre à l'évidence parce que des scientifiques l'ont prouvé. Ça ne marche pas comme ça. Les électeurs de Trump sont persuadés qu'ils ont raison, eux aussi, et que nous sommes une bande d'illuminés manipulés par la secte wokiste. Non, il va falloir faire mieux. Au Parlement européen, aujourd'hui, l'activiste Claire Nouvian me confiait que les députés de l'Union voyaient en moyenne 9 lobbyistes défendant des intérêts privés contre 1 défendant l'intérêt général. Dans l'espace médiatique, les progressistes, soit les écolos ou les féministes, passent parfois plus de temps à se déchirer entre eux, hashtag Clément Sénéchal, qu'à s'allier pour structurer des messages clés, des éléments de langage, et les diffuser par tous les canaux possibles. Les écologistes que nous sommes ont pour le moment échoué à mobiliser largement, à faire comprendre aux plus fragiles et à l'essentiel de la population que l'écologie, ça parle de leur vie de tous les jours. Ça parle de leur facture, ça parle de leur santé, ça parle de leur pouvoir d'achat, de leur alimentation, de leur bonheur. Que se battre pour vivre mieux, c'est se battre pour un monde plus écolo. Donc c'est à ces tâches-là que nous devons nous atteler dès aujourd'hui, avant que le monde ne sombre plus avant. L'avenir nous appelle, il a besoin de nous.
Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Absolument.
Merci Cyril Dion.
Voilà. Ouais, ok.
C'est tout ce que tu as comme réaction. D'accord. Ok.
Ouais, ok. Enfin, faut... Ok.
Ah, mais je te sens complètement désillusionné.
Totalement.
Ouais,
ouais,
c'est ça.
Ouais, totalement. Là, je crois que l'élection de Trump, c'était le coup de trop.
Ouais.
Ouais, où on se dit, waouh, tout le monde... auquel tu crois, tes valeurs et tout ça s'effondre sous tes yeux, quoi. C'est rude.
Mais c'est pas tes valeurs qui s'effondrent, hein. C'est qu'elles sont pas forcément partagées, en fait. Enfin, en tous les cas, elles le sont par certains, mais pas, peut-être pas par, par la majorité qui s'exprime. Hein. Après, effectivement, c'est le coup de massue pour beaucoup de gens. Alors, effectivement, on risque de passer par des moments un peu compliqués. En même temps, alors je ne sais pas si c'est une des raisons d'espérer. Je pense que le camp Trump et consorts, en fait, pour moi, ils n'ont pas les solutions. Ils prennent le pouvoir, mais ils n'ont pas les solutions. Alors peut-être que, en fait, on mettra du temps à s'apercevoir de ça. Mais je suis absolument convaincu que cette réaction, c'est plus de la peur du monde, de toute façon, qui doit advenir, quelles que soient les péripéties par lesquelles on va devoir passer.
Je suis pas sûr de ça.
Ah ben, mais quelles solutions ils ont ?
Alors, je suis pas sûr. Je sais pas s'ils ont les solutions, mais la perception que les gens ont de leur façon d'exercer le pouvoir, elle n'est pas si mauvaise que ça. Quand tu écoutais les reportages sur les gens qui ont voté Trump, ils disaient « Mais nous, on vote pour lui parce qu'avec lui, notre vie, elle était plus belle. »
Bah, tu penses véritablement qu'elle était plus belle, leur vie ?
Je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils ont ressenti.
Oui, c'est leur perception.
Et mais... regarde Mélanie en Italie. Les Italiens ont massivement voté pour elle. Aux élections européennes.
Il y en a qui morflent en Italie.
Y en a qui
c'est
morflent,
extrêmement
mais,
diversifié.
Mais
ce n'était
pas une victoire serrée qu'elle a eue.
Oui, mais alors peut-être qu'il faudra plus de temps pour s'apercevoir qu'encore une fois, ces gens-là n'ont pas de solution. Parce que par rapport aux enjeux auxquels on est confrontés, écologiques et autres, en fait, ils ne font rien, voire ils reculent là-dessus. Donc ça veut dire que on va devoir faire face à des choses qui vont être catastrophiques. Et peut-être qu'à ce moment-là, les gens s'apercevront que ces gens-là n'avaient pas les solutions.
Oui, bien
vois
sûr, mais ça sera trop tard. Mais on est déjà dans des choses catastrophiques
oui,
qui
oui,
nous arrivent
tout
au
à
niveau
fait.
Climatique.
On est absolument d'accord.
200 morts en Espagne.
Et c'est là où je pense que véritablement, alors qu'on en prenne plein la gueule, ça, c'est sûr, et que ce soit décourageant de voir que les solutions qui peuvent être apportées ne soient pas... entendu, pas perçu comme étant les bonnes, mais pour autant, voilà, moi je me dis que faut pas baisser les bras, quoi, et qu'il y a véritablement une guerre culturelle à mener, ça, je suis absolument convaincu de ça.
Oui, bien sûr, oui. Bien
et c'est
sûr.
Ce qu'on
après,
fait un peu ici avec nos petits moyens à SLP, mais si chacun fait sa part, peut-être. Ouais. Je pense que malgré tout, il y a un autre monde qui émerge, sauf que le rapport de force, il est pas forcément toujours en notre faveur. Parfois oui, parfois non. Regarde ce qui s'est passé aux législatives chez nous il y a quelques mois. Ça n'a pas forcément basculé comme on a pu le craindre à un moment. Ça ne veut pas dire que tout est résolu,
c'est
loin
d'être
de là.
Réglé.
Ouais.
Oui, non, mais de toute façon, il y aura plein de moments de découragement. Hein.
Ouais, c'est clair. Et faut les accepter aussi.
Yes, et les vivre à fond.
C'est ça. Bon, allez, c'est la fin, on se retrouve la semaine prochaine.
Alors, c'est la fin, c'est peut-être pas le mot. C'est peut-être pas le
c'est
mot
une
à
fin
dire.
Provisoire.
C'est ça, on se retrouve la semaine prochaine.
Mais la
allez,
fin,
galifier.
C'est le début d'autre chose, voilà. Gislain. Allez, ciao.